10. Tim découvrit assez vite ce que voulait dire Gullickson. En gros, il était un agent de patrouille des années 1950, sans pistolet ni même une matraque. Il n'avait pas le droit d'arrêter qui que ce soit. Quelques gros commerces étaient équipés de systèmes de surveillance, mais la plupart des autres, plus modestes, ne possédaient pas une telle technologie. Chez Dupré Discount ou au drugstore Auberg, il s'assurait que les lumières vertes de l'alarme étaient allumées et qu'il n'y avait pas d'intrus. Concernant les petits commerces, il actionnait les poignées de porte, collait son œil au carreau et frappait trois fois, comme le voulait la tradition. Parfois, cela provoquait une réaction, un signe de la main ou quelques mots, mais la plupart du temps, aucune. Et c'était tant mieux. Il faisait une marque à la craie et repartait. Il répétait la même procédure au retour, mais cette fois, il effaçait la marque de craie. Tout cela lui rappelait une vieille blague irlandaise. « Si tu arrives le premier, Paddy, fais une marque sur la porte. Si j'arrive le premier, je l'effacerai. » Il n'existait apparemment aucune explication logique à ces marques de craie. C'était une tradition, voilà tout, qui remontait sans doute à travers une longue succession de veilleurs de nuit à l'époque de la Reconstruction. Grâce à l'un des shérifs adjoints, Tim trouva un logement décent. George Burkett l'informa que sa mère possédait un petit meublé au-dessus de son garage et qu'elle voulait bien le lui louer à bas prix s'il était intéressé.
« Il n'y a que deux pièces, mais c'est sympa. Mon frère y a vécu 2 ans avant de partir en Floride. Il a réussi à se faire engager au parc Universal à Orlando. Il est bien payé. À la bonne heure. »«
Ouais, mais le coût de la vie en Floride, la vache. » »«
Dément. Je dois quand même te prévenir, Tim. Si tu prends cet appart, pas de musique le soir. Ma mère déteste la musique. Elle supportait même pas le banjo de Floyd. Faut dire qu'ils jouaient pendant des heures. Ils arrêtaient pas de se disputer à cause de ça. C'était affreux. »«
George, je suis rarement chez moi le soir. » Le visage de l'agent Burkett, un garçon de 25 ans environ, le cœur sur la main, d'un naturel enjoué, mais qui ne croulait pas sous le poids de l'intelligence, s'éclaira.
« Bien sûr, j'avais oublié.
Il y a une clim, pas très puissante, mais ça permet de dormir. En tout cas, Floyd y arrivait. Alors, ça t'intéresse ?»«
Oui, ça l'intéressait. Et si le climatiseur qui faisait trembler la fenêtre n'était pas très efficace, le lit était confortable, le salon douillait et la douche ne fuyait pas. La cuisine se limitait à un four à micro-ondes et à une plaque chauffante, mais Tim prenait la plupart de ses repas au Bev's, alors c'était pas un problème. Quant au loyer, impossible de faire mieux. 70 $ la semaine. George avait décrit sa mère comme une sorte de dragon, mais Madame Burkett était en réalité une brave femme, affublée d'un accent du Sud à couper au couteau, si bien que Tim comprenait seulement un mot sur deux. Parfois, elle déposait devant sa porte un morceau de pain au maïs ou une tranche de gâteau dans du papier paraffiné. C'était comme avoir pour logeuse un elfe du Sud. Norbert Hollister, le propriétaire du motel à la tête de rat, avait dit vrai au sujet des entrepôts. Il souffrait d'un manque de personnel chronique et recrutait en permanence. Tim devinait que dans les entreprises qui rétribuaient le travail manuel au salaire horaire le plus bas qu'autorisait la loi, en Caroline du Sud, il était de 7 $ 25, la rotation était importante. Il alla trouver le contremaître, Val Jarrett, qui se dit disposé à l'engager 3 heures par jour, dès 8 heures du matin. Ce qui laissait à Tim le temps de se laver et de se restaurer après sa tournée nocturne. Et par conséquent, en plus de ses activités de veilleur de nuit, il se retrouva, une fois de plus, à charger et à décharger. Ainsi va le monde, se disait-il. Et c'est temporaire.